Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Y'a rien, le centre vers David.
Pour un enfant issu du club comme moi, c'est sûr que ça fait très mal au cœur.
Et Anthony Lopez qui se trouve
filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
Ryan, il a grandi sans limite, il a grandi sans aucune notion du collectivité. Et je pense qu'il sait ce qui siffle les supporters, c'est plutôt l'attitude.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Oh Gigot, carton rouge. Oh, l'attentat de Gigot sur Neymar.
Y'a rien à dire, hein. Très très moyen sur ces deux interventions.
Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux.
Dans des autres pays, ces situations seraient dénoncées automatiquement. Recevoir des menaces. Comment?
Il faut pas se couper dans le temps. Ça sent pas bon. Rouge est resté. Oui, c'est pas vrai.
Comment on peut travailler comme ça?
C'est une mode qui revient au goût du jour à chaque mercato depuis plusieurs années. C'est très encadré, on le verra, avec des règles pour ne pas totalement mettre de côté les joueurs lofters. Mais tous les clubs quasiment le font, à Marseille, à Lyon, au PSG. Certains joueurs, et parfois des joueurs importants, sont mis de côté dans l'attente d'un transfert. Ils savent qu'ils ne joueront pas. C'est le cas par exemple de Bemba, de Vertu, de Gigot à Marseille, de Cherki à l'OL. Une pratique souvent critiquée par les syndicats des joueurs, mais aussi un moyen pour les coachs peut-être de travailler de façon plus efficace. D'où cette question ce matin, les grandes gueules du sport. Faut-il interdire les lofts, oui ou non? Jérôme Pinault.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Avant de vous entendre, on va accueillir Florent Germain. Salut Flo.
Salut François, salut à tous.
Tu vas commenter Marseille-Reims ce soir. On voulait t'avoir aussi pour parler de ce loft marseillais qui a été l'un des plus médiatisés, évidemment. Comment il s'est mis en place ce loft et comment ça a été perçu, notamment par certains joueurs, par les lofteurs?
Alors ça s'est fait dès le début de la préparation, et c'est avant tout, hein, je vais détailler un choix sportif, parce que Roberto De Zerbi, il a étudié l'effectif de l'OM, et s'il avait voulu s'appuyer sur les trois principaux lofters, comme on les appelle, on pourrait ajouter aussi Luis Garcia, mais Samuel Gigot, Chancel Bemba ou Jordan Veretout, il les aurait intégrés à son groupe, et après l'OM aurait peut-être trouvé un accord contractuel avec eux, ou fait le nécessaire pour que leur situation change, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de contrats, ça c'est très clair. Ils sont libres dans un an. Ils peuvent partir libres au mois de juin 2025, donc à un an aujourd'hui de la fin de leur contrat. Ils ont refusé certaines offres, et c'est ça qui tend un petit peu les relations avec la direction de l'OM. Jordan Veretout a refusé un pont d'or de Al Duhai au Qatar. Samuel Gigot a eu des offres en France, mais aussi en Turquie, de Trabzonspor. Il n'a pas voulu y aller. Pour Mbemba, ça a aussi pris des allures de clash, parce qu'il a été mis à pied, sanctionné d'une retenue sur salaire après avoir mal parlé à un intendant. Eux répètent logiquement qu'ils sont sous contrat, que leur droit est de choisir leur destin. L'OM leur a rappelé récemment, on l'avait évoqué dès le début de semaine sur RMC Sport, que leur vision est très claire: ils n'auront pas leur chance, quoi qu'il arrive, même à la fin du mercato, s'ils sont à l'OM, l'OM ne veut pas les voir jouer avec le maillot marseillais. Et cet agacement, il faut aussi le détailler sur un petit point, c'est qu'en fait Pablo Longoria, avec certains joueurs, c'était le cas par exemple avec Veretout, passe des accords verbaux. En gros, s'il n'y a pas de qualif européenne, il faudra faire le maximum pour quitter le club, parce que tu as un salaire Ligue des Champions. Et il a le sentiment que cette promesse n'a pas été tenue. Donc voilà, depuis le début de la prépa, il s'entraîne à part avec l'effectif de l'équipe réserve. On rappelle la règle, François, pour terminer. Oui. Jusqu'à la fin du mercato, le club doit proposer des conditions égales aux autres professionnels, donc en gros vestiaire, accès au terrain, etc. Mais ils sont pas tenus de les intégrer aux entraînements de l'équipe professionnelle. Par contre, à partir du 1er septembre, ils doivent participer à des entraînements collectifs de minimum 10 joueurs pro. Donc c'est là que ça deviendrait un peu plus compliqué de continuer à créer ce loft du côté de Marseille.
Exactement. Bon, Flo, tu restes avec nous hein, pour préciser des choses, évidemment, dans ce débat. Je rappelle la question ce matin, pour vous les grandes gueules, faut-il interdire les lofts? 32-16 hein, pour nous rejoindre dès maintenant. Pascal, toi tu as dit oui, il faut les interdire.
Oui. Je me suis toujours battu pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de loft partout où je suis passé. Je considère qu'à partir du moment où un club a scouté, suivi, puis ensuite acheté recruter des joueurs, ben je considère que le joueur et le club surtout a des obligations de respecter le contrat en tout point. Et l'entraînement, donner le même entraînement à quelques joueurs que ce soit, ça fait partie des règles que on doit observer dans un
club. Alors ils ont le même entraînement, sauf qu'ils font pas partie de l'effectif.
Ils ont pas le même entraînement jusqu'au...
Ah non, ils ont pas le même entraînement, c'est ça le problème.
Jusqu'au 31 août, ils sont à part, ils s'entraînent à des horaires différents, oui. Et ils sont souvent entraînés par des adjoints.
Ils sont accompagnés.
C'est le cas à l'OM, mais bon, ça, je viens d'entendre, je vais pas vérifier, j'ai pas le temps de le faire, mais souvent, ils s'entraînent avec le groupe 2, avec l'équipe.
C'est ça, ouais, l'équipe réserve en ce moment, avec voilà. Jean-Pierre Papin.
Voilà, personnellement, j'ai toujours lutté contre ça. Quand vous dites que ça fait longtemps, on voit cette prolifération depuis quelques années. J'étais joueur professionnel dans les années 80. J'ai joué une année, deux ans à Mulhouse. Et l'entraîneur était Raymond Domenech. Raymond Domenech m'a filé sur le stabilisé avec un ballon tout seul. Donc ça existe depuis longtemps. Les lofts se sont améliorés. Mais je trouve ça scandaleux. Sous prétexte que le joueur ne plaît plus au nouveau coach, voilà pas qu'on devrait le mettre de côté, qu'il ait quantité négligeable. Vous pensez un seul instant...
Ça, Pascal.
Vous pensez un seul instant qu'un joueur qu'on décrète être transférable, qui doit donc quitter le club, vous pensez qu'il va se précipiter de partir si vous le traitez de cette manière-là? Non, c'est pas un moyen de pression, certes pas. Un contrat est fait pour être respecté. Quand vous avez 35 joueurs, aujourd'hui avec les staffs que nous avons, on peut très bien se débrouiller pour faire en sorte que les joueurs s'entraînent tous aux mêmes horaires et bénéficient des mêmes conditions.
Fred, juste avant d'entendre, justement, puisque toi tu as dit qu'il fallait pas forcément les interdire, on a essayé de te l'imposer, toi, Pascal, parce que tu disais, toi, t'as toujours voulu te battre, mais tes dirigeants ont essayé de t'imposer des lofts dans tes groupes.
On a toujours essayé de m'imposer des lofts et j'ai toujours refusé de le faire. Je me suis accommodé avec mon staff pour faire en sorte que les séances d'entraînement soient suffisamment attrayantes. Attention, j'avais pour habitude de dire aux joueurs que je ne considérais pas comme étant des joueurs qui allaient rentrer dans mon projet sportif. Je leur signifiais. Ça, c'est le droit le plus entier, hein, en début de saison, de dire à un joueur, ouais, écoute, je compte pas sur toi. Je pense que ça participe à l'honnêteté de l'entraîneur. Okay, quand les choses sont claires, en règle générale, les choses se passent bien. Mais par contre, les dispensés de l'entraînement avec le groupe professionnel, je faisais toujours en sorte de les avoir avec moi.
Fred, toi, tu disais, c'est plus compliqué que ça, Pascal.
Mais évidemment que c'est plus compliqué que ça, et ça me surprend que Pascal pense ça. Il faut se rendre compte que le loft, c'est des règles. Et grâce à ces règles, les joueurs sont protégés. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, c'est légal. Donc à partir du moment où c'est légal, comment interdire quelque chose de légal? Je sais pas comment.
Non, Pascal, c'est légal jusqu'au 31 août. Jusqu'au 31 août.
Oui, jusqu'au 31 août, c'est légal. On est d'accord, Pascal. Oui, on est d'accord. Sauf que jusqu'au 31 août, c'est légal. Donc les lofts ont le droit d'exister. Ensuite, ces joueurs ont le droit de s'entraîner, d'avoir des soins médicaux, d'avoir accès aux infrastructures, et avoir des entraînements à des horaires décents pour eux. Je sais pas si, moi, je connais des gens qui ont été dans le loft, dans le basket. Et à l'époque, on les incorporait à notre équipe. C'était pas un loft. Ils étaient incorporés dans l'équipe, sauf que dès qu'on faisait de l'opposition, ils ne jouaient pas. Ils étaient sur le côté. Dès qu'on faisait un déplacement, ils se déplaçaient, mais ne jouaient pas. Donc, ils étaient toujours avec nous. En gros, ils perdaient de la condition physique, ils perdaient de la valeur marchande. Ça n'avait plus aucun intérêt de les avoir avec nous, ni pour eux, ni pour l'équipe. Et finalement, on était dans un no man's land. Au moins, maintenant, il y a des règles. Alors oui, je te rejoins. Si à partir du moment où tu commences à faire pression pour qu'ils partent, oui, on est en dehors des clous. Tant qu'on respecte les clous, je pense que c'est mieux d'être dans un loft charté, régulé, avec des règles bien précises, que d'être dans une équipe et de ne servir à rien, d'apporter des bouteilles d'eau aux autres joueurs.
Faire partie d'un effectif de 35 joueurs. Faire partie d'un effectif de 35 joueurs et faire en sorte que les staffs qui sont souvent, et notamment pour les entraîneurs étrangers, quand ils viennent, avec une batterie, une armée de Mexicains, ok, mexicaines. Ouais, donc tu veux me dire que 35 joueurs à 10 membres du staff, t'es pas capable de les entraîner comme les autres en même temps?
C'est pas cette question-là. À partir du moment où tu veux qu'ils partent,
quelle est la différence entre faire en sorte que tu
t'entraînes? En fait, c'est le coach qui va décider qu'ils veulent qu'ils partent. D'accord. À partir du moment où il veut que le coach veut qu'ils partent, il va pas les entraîner, il va pas faire d'efforts pour eux.
Attends,
c'est une évidence.
Attends, Fred. Sauf Fred, que grâce là encore une fois, ils ont j'aimerais te reprendre. J'aimerais te reprendre. Ok. Le coach veut qu'ils partent, mais le coach, c'est un employé d'un club. Le coach, il a 35 joueurs. Non, le coach, il ne veut pas les utiliser en match. C'est pas pareil.
Qu'il ne les utilise pas, c'est une chose, mais qu'il insiste pour qu'ils partent, c'est pas de son domaine. Je suis vraiment désolé.
Non, c'est pas, vraiment c'est désolé. Pas son...
Alors, d'accord, je te d'accord. répète okay, que c'est okay. mon métier. OK? Donc, c'est
Pascal,
pas de son domaine.
C'est pas de son domaine. Je t'accorde ce point-là. C'est pas son, je suis d'accord. Je t'accorde ce point-là. Sauf que, comme tu le dis, c'est un employé, de la structure. Qui décide, elle, que les joueurs doivent partir. Donc, à partir de là, il doit subir, ou en tous les cas, appliquer les ordres donnés par la structure. Les ordres donnés par la structure, c'est, en gros, quand t'as un mec sur qui tu veux compter et un mec sur qui tu vas pas compter, tu vas faire jouer lequel? Tu vas faire le mec sur qui tu veux compter.
Oui!
De même, à l'entraînement.
On parle pas de jouer, là, Fred. On parle pas de jouer. On parle de s'entraîner.
Mais oui, à l'entraînement, c'est pareil. En fait, moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. J'ai un collègue, pour citer son nom, c'était Fred Forté à l'époque, qui était à Limoges. Et qui a été obligé de demander à un huissier de vérifier qu'on lui acceptait le droit de venir aux entraînements. Parce qu'il était mis à l'écart du groupe. Ouais. Maintenant, il y a des règles précises qui ont été adoptées. Tout le monde est d'accord avec ça. Et même les syndicats disent que c'est plutôt une bonne chose quand c'est dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'en gros, quand on applique ça, et pas uniquement pour mettre de la pression, quand c'est un choix sportif, il n'y a pas de problème. Ouais. Je vois pas pourquoi nous, on irait contre la loi, en fait. La loi est...
Tu sais qu'il y a des sports. Il y a des sports.
J'aimerais entendre Jérôme, effectivement, qu'on n'a pas entendu là-dessus, Jérôme. Pour préciser aussi quand même, Fred, c'est que le problème de ces lofts, c'est quand ils sont faits pour exclusivement des raisons sportives, à la limite, pourquoi pas, mais quand c'est uniquement des raisons pour faire partir le joueur parce que il a une valeur marchande et qu'on veut absolument récupérer de l'argent,
mais
c'est peut-être plus gênant.
Il fallait pas le réguler.
C'est difficile, c'est difficile de le voir.
Tu sais à quoi ça s'apparente.
C'est pas difficile à vérifier.
Fred, pour moi,
vas-y, Jean.
Pour moi, l'image de ce, c'est pour ça que j'ai dit non, parce qu'il y a d'une chose, c'est Pascal va me tomber dessus, donc je la mets en premier. Ce sont quand même tous des génies. Parfois sur les hommes de terrain, les entraîneurs qui veulent plus des joueurs et qui disent j'en veux plus, puis finalement au bout de 2 mois il y a 3 blessés machin et le mec qui revient, il fait 3 matchs et ça devient la star de l'effectif. Parce que ça c'est arrivé, on l'a vu. On a vu des joueurs aller dans les lofts, dans les fameux entraînements loftés, c'est-à-dire à l'écart de tout, puis d'un coup ils reviennent, ils jouent, ils s'entraînent parce qu'il y a des blessés et finalement il n'est pas parti parce qu'il a refusé une offre d'un pays du Golfe et finalement il revient et il joue. Ça peut arriver aussi. Moi c'est dans le système loft que je suis contre, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression quand même que ça s'apparente grandement à un grand groupe français qui veut dégraisser en France et qui dit mais nous exactement. On les vire pas, par contre tu vas plus être directeur général, tu vas trier les papiers qu'on a déjà coupés en 10. Tu fais péter les plombs, en fait. C'est des raisons économiques, là. C'est plus des raisons sportives, Fred. C'est pour ça que je peux pas te laisser. Évidemment,
c'est bon,
évidemment qu'on sait. Mais là, c'est du harcèlement moral, quasiment, tu vois.
Non, mais en d'accord, fait, mais
tu sais, comme le dit Pascal, t'as des staffs.
Ouais.
Pardon.
Vas-y, Pascal.
Non, mais j'aimerais que Fred, il intègre la chose suivante. Allez, 35 joueurs, voire 40 joueurs dans un effectif professionnel, c'est ça, très exactement. Difficile de les entraîner tous en même temps. Mais quand tu as 10 membres de staff, tu veux pas me faire croire que tu peux pas faire des sous-groupes à l'intérieur de ta séance d'entraînement. C'est ce que nous faisons tous. Ça t'empêchera pas de travailler avec ton 11, quand t'as envie de travailler tactiquement avec ton 11, sans te soucier des autres. L'essentiel pour moi, c'est que tout le monde bénéficie du premier jour de la reprise d'entraînement jusqu'au dernier, des mêmes conditions d'entraînement, du même accès aux soins, des mêmes horaires d'entraînement.
Et pour ajouter,
Pascal, c'est ce qui avait été fait. Je vais préciser.
Attends, Pascal,
c'est ce qui avait été fait. C'est ce qui avait été fait en tout début de préparation, parce que ils s'entraînent pas à être l'équipe réserve depuis le premier jour. On va dire que les 3 premières semaines, ils étaient avec le groupe professionnel, mais simplement Roberto De Zerbi ne voulait pas les utiliser sur les entraînements tactiques, notamment les oppositions où il avait où il leur avait expliqué que de toute façon il allait pas compter sur eux.
Donc faisons, c'est ce que nous
c'est que depuis le début de saison que vraiment ils s'entraînent avec l'équipe réserve.
Pascal,
il faut savoir que quand les clubs professionnels,
moi, ce qui me choque, c'est
vas-y Pascal, et après je donne la parole à
Jean. Quand les clubs professionnels se déplacent pour les matchs de championnat, ils se déplacent avec 20 joueurs. Quelquefois, ils prennent des précautions, ils en prennent un ou deux de plus. Mais les autres, ceux qui font partie intégrante de l'effectif professionnel, continuent à s'entraîner parce qu'il y a des membres du staff qui restent sur place. C'est une vraie organisation. Donc, c'est pas 3-4 joueurs lofteurs. Donc, on a décidé parce que sous prétexte que leur style de jeu ne plaisait pas au projet qu'on voulait mener, qu'on doit tout d'un coup les avilir. parce qu'il va aussi de comment dire l'esprit, un club de football collectif, une équipe, elle a besoin de fondements collectifs. Vous pensez que le joueur qui est titulaire aujourd'hui et qui se dit tiens, je suis à 2 ans de la fin de mon contrat, si je suis pas bon cette année, ils vont me mettre dans un loft. Vous pensez que c'est bien ça?
Exactement.
Bon, en tout cas, on va continuer le débat évidemment dans les grandes gueules du sport. Mais vas-y, Jérôme, un dernier mot et après on fera une petite pause. Vas-y, Jérôme, on t'écoute.
C'est ce que je voulais compléter par ça. C'est du manque de respect envers l'homme quand tu sais, comme l'a dit, on l'a dit juste avant. Tu vas le chercher, tu lui fais des présentations. Là, on parle des gars de Marseille au Vélodrome. Moi, je parle de Jordan Veretout que je connais un peu.
Mais Jérôme, l'inverse est vrai aussi. Certains joueurs ne veulent pas respecter leur contrat.
Et d'un
aussi.
Coup, l'image que tu donnes à tes autres joueurs, c'est t'es là, t'es une vedette. Mais si on change d'entraîneur. Peut-être que l'année prochaine, tu vas jouer avec 4 copains et tu vas aller jouer avec l'équipe B et un autre entraîneur et tu vas être mis de côté. Il n'est pas bon le signal non plus. Je voulais juste signaler une dernière chose, c'est qu'il y a des sports comme le mien, le nôtre, le cyclisme, où ça n'est pas possible. Tu sais que quand tu ne vas pas utiliser un coureur, que tu ne veux plus le faire courir, tu es légiféré, tu es obligé, tous les 65 ou 70 jours ouvrés, de lui faire participer à une compétition. Tu es sous contrat, tu as un coureur sous contrat, et à partir de là, tu dois le faire courir, fait partie du contrat, parce que tu peux bien m'expliquer ce que tu veux, même en football, l'entraînement ne compensera jamais la compétition, et quand t'embauches un joueur de haut niveau, c'est pour faire les matchs, et si tu ne fais pas participer à les matchs, toi, en tant qu'employeur, dévalorise sa valeur marchande alors que tu veux le vendre. Moi, pour moi, c'est pour ça que je trouve ces lofts juste scandaleux.
Ok, bah écoute, on va demander ce que vous en pensez à tous ceux qui nous écoutaient sur les GG ce matin, 32-16 pour nous rejoindre. Est-ce qu'il faut interdire les lofts? Vous voyez, ça fait déjà débat depuis 9h. Effectivement, c'est un thème qui prend de l'ampleur là, dans cette fin de mercato. On te garde un petit peu, Flo, parce que voilà, on va continuer de parler de ce loft à Marseille notamment. Vous revenez avec nous au 32-16. On vous attend dans moins d'une minute sur RMC, à tout de suite. Pour poursuivre notre débat, on va donc accueillir Claude qui a fait le 32-16. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Sur ce débat sur les lofts dans le foot, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut les interdire?
Oui, je pense qu'il faut interdire les lofts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un joueur de foot est un travailleur, et comme tout travailleur, il a droit à des conditions de travail décentes, au même titre que les autres membres de l'entreprise qui ici est le club de football. Donc, pourquoi mettre un joueur au loft? Et puis, il faut savoir que le football est parfois traître. Un joueur peut sortir du loft et être celui qui, au cours de la saison, vous fait gagner des matchs et vous sort de situations bien compliquées. Donc, il faut d'abord pas oublier que c'est un joueur de foot. Et comme tout joueur de foot, d'avoir des bonnes conditions de travail. Et surtout, psychologiquement, c'est important pour le joueur de foot, parce que derrière, vous enclenchez un conflit qui, parfois, finit par être perdant pour à la fois le club et le joueur, parce que finalement le joueur finit par partir libre à la fin de la saison, il finit par partir dans des conditions de vente qui ne sont pas avantageuses au club juste parce qu'on veut le vendre. Et puis comme disaient les experts sur le plateau, comment voulez-vous vendre un joueur si vous le mettez au placard? Et puis la question bien plus importante, c'est de se poser la question, pourquoi ça existe aujourd'hui les lofts? C'est probablement dû aux nombreuses erreurs que les présidents et les clubs font en donnant à beaucoup de joueurs des contrats hors normes, avec des clauses parfois loufoques, qui font qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus partir. Moi, particulièrement, je serais partisan de contrats à la NBA. Peut-être vous me direz que c'est un peu dur, mais quand vous signez un gros contrat dans un club, si le club peut vous garantir le même contrat, le même salaire dans un autre club, vous pouvez partir à un moment donné. Moi, je pense que M. Weiss, qui est sur le plateau, pourra peut-être être d'accord avec moi.
Il va te répondre, justement, Claude. Fred Weiss, des contrats à la NBA, comme nous dit Claude.
Alors, Claude, franchement, j'adore ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant, effectivement. Il y a parfois des lofters qui font des très belles saisons et c'est magnifique. Sauf que tu es en train de parler du respect des travailleurs, du respect de leur façon de travailler, de progresser dans une équipe, d'être un travailleur lambda, entre guillemets. Et tu me parles de contrat NBA où on traite les travailleurs, donc les basketteurs, comme de la marchandise. C'est-à-dire qu'on les transfère n'importe quand, n'importe où, à leur insu. Je comprends pas vraiment ton discours là, Claude. D'un côté, tu veux que les travailleurs soient protégés, et de l'autre, tu veux qu'on fasse à l'américaine ou n'importe qui peut bouger n'importe quoi.
Vas-y, va te répondre, Claude. Vas-y, on t'écoute.
Au restaurant, à toutes les infrastructures du club, il doit pouvoir jouer, être avec le staff, avec toute l'équipe quand il faut. Maintenant, si aujourd'hui le club lui dit, écoute, Barcelone, Madrid, autres veut te prendre en te donnant les mêmes conditions de salaire, parce que nous on estime que ici on n'a plus besoin de toi. Il faut qu'à un moment donné le joueur puisse aussi partir. Parce que les joueurs aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance pour les joueurs aujourd'hui, c'est de partir libre. Ils veulent tous partir libre. Mmh. Donc, ils ne veulent plus partir.
Non, mais le joueur peut partir, dit Claude. Je suis d'accord avec toi. Mais il est souvent obligé par son club à partir. C'est-à-dire qu'encore une fois, je me répète, il est traité comme une marchandise. Et honnêtement, moi, je préfère qu'on ait un loft où les mecs sont traités de la même manière que l'équipe, même si c'est en parallèle de l'équipe, que un contrat NBA où t'es une valeur marchande, où t'es échangé pour compenser des stars qui sont échangées entre elles parfois. Il y a des joueurs qui ne servent que
de valeur marchande,
dans un échange.
Bon, il faut répéter. Faut répéter quand même qu'ils ont des conditions, parce que j'ai entendu le mot décente, c'est le cas malgré tout. C'est parce que tu es pas avec l'effectif professionnel au moment de l'entraînement que t'as pas accès au terrain, aux soins, à la restauration, aux équipements. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus peindre ça de manière ultra noire en pensant.
Je suis pas d'accord avec toi.
Non, mais c'est factuel.
Flo, d'abord, et puis après tu pourras lui répondre.
Il faut se projeter au 1er septembre où effectivement moi j'ai un petit doute sur savoir comment la situation va évoluer. Après, pour la période de l'été, voilà, pour la période de l'été, je l'ai expliqué. Ouais,
c'est
légal de faire des lofts. C'est aussi honnête quelque part de dire je crois que tu l'as dit, Pascal, tout à l'heure, que voilà, je suis coach, je ne compte pas sur toi, je veux pas faire les entraînements tactiques parce que je considère que j'ai besoin que ce soit que mes titulaires. Bon, il y a aussi une part d'honnêteté là-dedans. Moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer au 1er septembre. C'est vrai que quand l'OM affirme et semble être très clair par rapport à ça, qu'ils n'auront jamais leur chance et qu'ils ne vont plus porter le maillot de l'OM, tu te dis, s'ils sont encore dans l'effectif professionnel en septembre, ne pas pouvoir avoir sa chance et prouver au coach que pourquoi pas, tu peux faire l'affaire, ça, effectivement, je considère que c'est peut-être
trop. Oui.
Mais après, il y a aussi ce sacro-saint, comment dire, l'entraîneur tout-puissant. Non, je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis. Mais l'entraîneur tout-puissant de Zerbi, OK, qui est en train de me dire qu'il sait exactement les qualités de Chancel Mbemba, par exemple. D'accord? Il les connaît par cœur. Il pourrait pas se donner un peu de temps pour les découvrir sous prétexte qu'il les connaisse par cœur, mais peut-être qu'il en a d'autres qu'il ne soupçonnait pas en le voyant s'entraîner. Peut-être que il pourrait découvrir que ce joueur-là a des qualités certaines qui pourraient lui servir dans son projet.
Pascal, vous avez
et puis ensuite la dernière chose, Pascal, et pour moi c'est extrêmement important. Pardonne-moi Fred. La chose la plus importante, c'est que comment gagner le respect. C'est difficile de gagner le respect quand tu es coach, mais en tout cas, tu le gagneras qu'à partir du moment où chaque fois, dans ton esprit, tout au long de la saison, tu essaieras d'être le plus juste possible. Or, dès la première minute, tu commences à faire des injustices en mettant des joueurs sur le côté, quoi que tu me dises, au placard.
Ouais.
C'est pas bien.
Ouais.
Ça participe pas à une bonne cohésion.
Alors après, c'est vrai que pour aller dans le sens de Pascal, là, pour le coup, Mbemba, c'est aussi, et Flo le disait, un joueur qui est en fin de contrat en 2025. Donc attention à ce que les lofts, mais on l'a dit, ne servent pas à ça aussi, à mettre pression sur les joueurs pour qu'ils re-signent. C'est arrivé aussi.
Non, mais les trois cités sont en fin de contrat dans un an. C'est donc pas c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus en disant que, un, il y avait une raison sportive, parce que si Deserbi, il arrive et il dit non, mais moi j'adore Veretout, j'ai besoin de lui, je vous garantis que l'OM va trouver la parade contractuelle aussi pour pourquoi pas le prolonger, enfin faire quelque chose, même si c'est vrai que l'OM se piège avantages, peut-être parfois en donnant des gros salaires, et du coup les joueurs logiquement sont un peu moins pressés de partir, même si pour Veretout c'est pas le meilleur exemple parce qu'il avait un pont d'or du Qatar. Mais il y a aussi, tu l'as dit, quelque chose de contractuel, même si Roberto De Zerbi, alors je sais pas si ça va faire sourire Pascal ou pas, mais en tout cas lui il veut se projeter comme les dirigeants sur un projet d'un peu plus d'un an, quoi, sur 2-3 ans. Ouais, trois ans, il a signé. Et donc, il n'y a aucun joueur à l'heure actuelle, titulaire, non mais écoutez-moi, qui est sous contrat pour, uniquement une année. Donc, ils veulent un effectif avec des joueurs qui sont là sur le sol.
Je sais
que ça a beaucoup rigolé.
Non, mais ça me fait rigoler, parce qu'évidemment que ça me fait rigoler, parce que les projets à 3 ans, dans un club de foot, qui plus est à l'OM, avec ça n'existe pas,
Et c'est facile au mois d'août.
On sort un peu du débat, mais je rejoins encore une fois plus de plus Pascal. Le génie qui arrive à Marseille, qui va gagner un match, deux matchs, trois matchs, mais mec, dans trois matchs, tu vas en perdre cinq de suite, on va te virer, les mecs qui étaient dans le loft, ils vont revenir faire l'entraînement avec les autres. C'est ça le football aujourd'hui, les projets à long terme. Moi, je sais que, comme le dit Pascal, moi, je sais que je vais mettre une mise en place tactique. Chantal Mbemba, Jordan Veretout, qui est un homme à tout faire, qui veut pas aller au Qatar parce qu'il aime le foot, il veut jouer dans un club où il y a du frisson, alors oui, il est bien payé, Mais tout ça, on prend pas en compte. C'est juste incroyable qu'on prenne toujours pas ça en compte. Le jour où il y a des clubs qui vont comprendre que la stabilité d'un effectif sur 2 à 3 ans avec des contrats, généreux, mais essentiellement portés sur le rendement d'un joueur et non pas sur de la spéculation, on aura fait un pas. Mais là, on est dans le football fiction, les gars. Ne me dites pas que De Zerbi, il fait pas, parce que, non, on lui a dit, ces mecs-là, ils doivent partir ou ils doivent re-signer. Et tant qu'ils font pas ça, ils vont pas jouer. De Zerbi, c'est pas le génie qui arrive. Oui, c'est un bon entraîneur. Moi, tu sais, j'étais il y a pas longtemps à deux pas de la commanderie. Autant te dire que vous connaissez tous la commanderie. Il y a largement la place pour faire entraîner 35 joueurs au même niveau, hein. Largement. Et quand bien même on fait une opposition tactique sur un demi-terrain, il en reste 4 des terrains pour faire jouer les autres, pour faire autre chose, pour les laisser à niveau. Parce que De Zerbi, tout ce qu'il est, si dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 10 matchs, il n'y a pas de résultat, c'est lui qui va partir. C'est pas les lofters. Ouais. Donc à un moment donné, il faut aussi être raisonnable, regarder dans quel monde tu vis et te dire, peut-être qu'il faut protéger aussi l'homme. Moi, je vous dis, je connais pas personnellement, j'ai des connaissances autour, et donc je connais le personnage Jordan Veretout, le mec qui veut pas partir au 4 parce qu'il aime le foot, parce qu'il a envie de jouer dans un grand club comme l'Olympique de Marseille. Alors, et qu'il a pas envie d'être dans un loft pour s'entraîner avec l'abbé. C'est pas possible, ça.
Alors, je suis d'accord
attention,
avec toi.
Ça grimpe, hein, autour de la commanderie. Hein. Je sais pas si ça, il y a des cols en catégorie, mais.
Je sais, oh là là. Je sais. Je peux te dire que j'ai fait une sortie de vélo il y a pas longtemps. C'est pour ça.
Je me doutais.
Non, mais alors là, c'est vrai qu'on s'est placé du point de vue des clubs. Et c'est vrai qu'on peut accuser les clubs parfois de faire un peu ce qu'ils veulent avec les joueurs. Mais qu'en est-il de ces joueurs qui vont, eux, au bras de fer? Eux, ils ont le droit, les joueurs, par exemple, d'aller au bras de fer pour partir.
J'allais y venir.
François, c'est exactement ce que je t'ai dit. Au moins, ça équilibre les forces, l'offre. C'est-à-dire que, en gros, le club dit je ne veux plus toi, mais les joueurs combien de fois ils disent je ne veux plus jouer pour cette équipe, je veux être transféré, je vais aller là-bas, je vais pas jouer du tout, je vais prétendre être blessé même parfois, je suis désolé, ça va choquer certains, mais parfois on prétend être blessé aussi. Donc à un moment, rééquilibrer les forces, je vois pas en quoi c'est grave. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve sur un loft où tout le monde doit prendre ses responsabilités. Le Fred, club chacun, au 1er septembre, t'es sûr, hein, ou t'es les sûr. Joueurs.
Mais en fait, t'es sur un management à la contrainte, toi, là. Avec la baguette, tout ça. Non, chacun a des droits et des devoirs.
Oui, enfin, c'est le
sport. À partir
sport,
du moment. Moi, j'ai à partir du moment.
Non.
À partir du moment. C'est dommage que tu m'aies pas vu, parce que je suis pas comme ça. À partir du.
Mais ouais, je suis mais pas de haut niveau.
C'est ce que tu veux dire. Voilà.
Non, parce que. Il faut une grande baguette pour
moi. À moins que tu me portes sur tes. Si tu me portes sur tes épaules, peut-être.
Voilà, c'est ça.
On aurait pu faire des dunks.
Ça, c'est à voir.
Ça aurait pu être sympa.
Ça, Pascal Duprat qui coach Fred Veil, ça aurait bien voulu voir ça.
Cela dit, les joueurs, bien entendu, ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Donc à partir du moment où les joueurs qui sont considérés comme étant indésirables, pour les raisons qu'on a évoquées, ça les absout pas de respecter les horaires, de respecter les installations, de respecter leur coach, voilà, de se comporter comme des dignes joueurs professionnels. Ça, bien entendu. Mais je suis vraiment désolé.
En ayant
les lofts, c'est le cancer du sport professionnel. Point barre.
Au moins, c'est des règles. Au moins, il y a des règles appliquées. Au moins, il y a un. un cadre, on sait où on en est.
Mais Fred, de s'entraîner quand tu es professionnel, je comprends pas ce que tu dis. De s'entraîner quand tu es joueur professionnel avec le groupe professionnel, ça te suffit pas comme règle. Faut que tu m'en rajoutes d'autres.
Si, sauf que
25 d'un côté, 10 de l'autre. Qu'est-ce que tu me dis là?
Tu peux les obliger à assister à l'entraînement, à être présent, mais tu peux pas les obliger à faire. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais de l'opposition, quand tu fais des matchs, quand tu fais des exercices, tu peux dire, eh ben, tu vas sur le côté parce qu'il y a rien qui t'oblige à les entraîner.
Eh ben, ils sont obligés. Tu prépares une séance d'entraînement, tu fais, par exemple, tu as ton 11 et puis tu as les, ceux qui te servent d'adversaire. Tu veux pas me dire que tu peux pas faire des séquences de 10, 15 minutes et puis changer les équipes adverses?
Pascal, oui, tu peux.
Ça c'est de l'organisation. Quand tu as un staff, tu dois organiser.
Pascal, je te rejoins complètement.
L'obligation, en fait, c'est de faire en sorte que chaque joueur professionnel s'entraîne avec le groupe professionnel du premier jour de l'entraînement jusqu'au dernier.
J'aurais une question pour Pascal. Alors, la réponse de Fred et la question ensuite de Flo. Un peu d'organisation.
Pascal, dans le pays merveilleux de Walt Disney, oui, tu peux faire ça. Tes mecs viennent et tu les veux plus, mais tu les fais s'entraîner avec le groupe. Sauf que ce n'est pas comme ça. Je l'ai vécu. J'ai eu des joueurs qui ont été avec moi, qui étaient avec nous. C'est-à-dire qu'en gros, ils venaient aux entraînements parce qu'ils étaient obligés d'être présents à l'entraînement collectif. Ils ne jouaient jamais. Ils étaient sur le côté. Et en fait, eux m'ont dit, à partir du moment où on nous a mis de côté, qu'on nous a donné des créneaux d'entraînement, qu'on nous a donné accès aux soins, notre vie a changé, c'était beaucoup mieux pour nous. Parce que quel était l'intérêt pour nous d'être à côté et de regarder l'entraînement?
C'était en quelle année ça? Écoute, j'espère retrouver un club et viens avec moi, tu verras comment ça marche. Il n'y a pas un joueur qui est sur le côté. Il n'y a pas un joueur qui ne s'entraîne pas.
Pascal, ça c'est toi. Sauf que la volonté, si ton président te dit tu ne fais pas s'entraîner, il n'y a aucune obligation. Le loft, c'est bien, c'est mal. C'est au moins une règle, en fait. Et ça permet d'avoir une règle pour ces joueurs pour pouvoir continuer à travailler, à pouvoir continuer
à s'entretenir. Et comment tu fais au 31 août, toi, le génie du management, tu fais comment au 31 août?
Les gars, moi, on pose la question sur le loft. Hein. On pose pas la question sur la partie au 31 août.
Il gère jusqu'au 31 août.
Le loft est légal jusqu'au 31 août. On me demande si on doit interdire les lofts. Non, parce que jusqu'au 31 août, il n'y a pas de problème.
Il est bon.
Ah, il est trop fort, Fred. Tu m'as tué, là.
Ah, il retombe sur ses pattes, en même temps, elles sont grandes. La question qui tue de Flo à Pascal, non, t'avais une question, c'est ça, Flo.
Tu sais que Chancel Bemba, il y a eu un clash avec l'OM lié au fait qu'il n'a pas voulu, et il a mal du coup parlé à un intendant, il n'a pas voulu participer à un match amical avec l'équipe réserve. Donc je voulais savoir si selon toi, c'était un manque de respect de dire à un professionnel qui effectivement doit normalement être avec l'effectif pro d'aller jouer avec l'équipe réserve parce que l'entraîneur de l'équipe première ne compte pas sur lui. Donc est-ce que Mbemba est en faute selon toi d'avoir refusé au-delà du fait qu'il n'a pas très bien parlé?
Bien entendu, il est en faute. Bien sûr qu'il est en faute. Cela dit, moi, c'est, encore une fois, je ne sais pas. Si les choses sont claires dès le départ, c'est-à-dire que dès le premier jour, les choses, le règlement intérieur prévoit que les joueurs professionnels jouent chaque fois que le coach principal le souhaite avec l'équipe réserve. Si tout ceci est bien défini dès le départ, ben t'évites justement.
Ça devrait être logique. Ça devrait être logique.
C'est normal. C'est logique.
Voilà, exactement. Voilà. Donc quelque part, les joueurs aussi. Ah, parfois,
t'imagines le délire. T'imagines le délire à la signature quand même. Est-ce que vous imaginez un peu le délire à la signature? Tu prends un mec comme Chancel Mbemba ou Jordan Veretout que tu vas chercher pour t'en faire une des stars du truc, et avec les agents du mec, tu dis par contre, on va mettre 2-3 clauses parce que le jour où on en aura marre, il faut pas que tu refuses d'aller jouer. C'est impossible de faire ça.
C'est impossible. Complètement folle, tu as raison. Ça n'arrive jamais
C'est un autre débat.
Ça c'est à la discrétion de chaque coach. Ça, il y a des coachs qui souhaitent que les joueurs pour conserver du rythme jouent les matchs de l'équipe réserve. C'est quoi l'offense? Voilà. Tu penses que quand Vertu ici, il pense qu'il va jouer en réserve à l'OM? Son objectif, c'est de jouer avec l'équipe professionnelle. Voilà.
Bon, en tout cas, on a eu un très très bon premier débat. Bravo à tous les trois et même tous les quatre. Merci Flo d'être venu.
Merci les amis.
Merci Flo. Marseille-Reims, 20h45. Voilà, va dans ton beau loft là avec vue sur le vieux port. Non? Pas ça peut-être. Merci en tout cas Flo.
Je suis sur les hauteurs de la commanderie. J'ai vu passer Jérôme il n'y a pas longtemps.
Claude, on te remercie d'être passé au 32-16 et comme Claude, vous venez participer à nos débats au 32-16 bien sûr toute la journée, toute la matinée.